RMC Running, Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés. De la course à pied avec le maître Yodu, Johan Durand, le maître nageur d'RMC Running. Salut Yodu.
Salut à tous, salut Benoît. Bah, maître nageur, je crois que tu me connais mal. Hein.
Ah ouais. L'eau, c'est pas ton élément favori, quoi. Ça, c'est sûr.
C'est pas là où je me sens le mieux, mais franchement, de tous les coureurs, j'en ai pas vu beaucoup qui nageaient bien. Donc d'ailleurs, là-dessus, je suis pas le plus mauvais.
Je me permets, parce qu'on l'a toujours pas fait, c'est entièrement de ma faute, je m'excuse auprès d'eux. La Musette Bolloise, un club de triathlon, nous a envoyé un bonnet de bain pour toi et je l'avais toujours pas signalé. Donc je te donnerai leur bonnet de bain. Voilà.
Ah, mais si j'avais eu ça, je serais meilleur.
Ah, bah, certainement.
En plus, j'aurais le look.
En slip avec le bonnet de bain, je t'imagine bien. Alors, pourquoi pas. Si vous aimez RMC Running, vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux, hein, sur Instagram, sur Strava, sur TikTok. Vous allez sur les plateformes de téléchargement également, YouTube, Apple, Deezer, Spotify. Voilà, n'hésitez pas à suivre RMC Running, comme ça vous vous tenez au courant de toute l'actualité de nos podcasts. Un épisode exceptionnel en plus aujourd'hui, Johan. C'est le troisième épisode de notre série consacrée aux mamans runneuses avec une invitée exceptionnelle, une légende du sport français qui va nous rejoindre. Laure Manaudou avec nous, la première nageuse française sacrée championne olympique à tout juste 17 ans. Laure qui est maman de 3 enfants. On pourra parler de tous ces sujets avec elle. Quel est son rapport avec le sport aujourd'hui? Le plaisir dans la course à pied. Est-ce qu'elle aime vraiment courir et chausser les baskets? On en parlera. Oui. Et comment elle concilie sa vie de maman et sa pratique sportive. Voilà, on abordera tous ces sujets. Et qui dit invité exceptionnel dit cadeau exceptionnel. J'ai 2 cadeaux à offrir cette semaine. Le bon plan matos, ce sera des bottes de pressothérapie. Ça, c'est très utile pour la récupération. Ouais. Bottes de la marque Jolt. On sera avec Émile Vucot, le cofondateur de la marque, qui nous rejoindra. Et puis un bon plan dossard. Un swimrun pour rendre hommage à Laure Manaudou, le swimrun Côte Sud-Land. Voilà, c'est chez toi aussi, Osgore, tout ça, toute cette route magnifique. Des distances 20 km et 5 km. On vous dit tout en fin d'épisode. Enfilez vos baskets, enfilez le maillot cette fois-ci, c'est parti pour RMC Running.
Laure Manaudou est championne du monde du 200 mètres d'altitude avec un record du monde. Pulvérisé.
Il y a Laure devant. Allez. Et les trois autres derrière sur la même ligne. Attention à Sandono qui revient. Oui. Attention à Laure Manaudou, peut-être champion olympique. Il ne reste plus qu'une quinzaine de mètres. À Sandono qui revient, Laure Manaudou qui va le faire. Elle accélère encore. Laure Manaudou, champion olympique de natation.
Jamais une Française n'a été championne olympique dans l'histoire de la natation. Une demi-longueur d'avance maintenant pour Laure Manaudou. Sur ces trois temps suivants, sur Yann Rechak, sur Sandono et sur Camélia Potek également. Manaudou poussé par le clan français, par toute la piscine d'Antenne, une demi-longueur d'avance, et ça va être historique. Laure Manaudou qui va devenir championne olympique et de natation. C'est la première fois qu'une Française est championne olympique.
Oui,
Laure Manaudou championne olympique en 4-0-5.
Ah oui, carrément. Oh, cette musique incroyable. Ça,
on
c'est
passe
un bel accueil.
À avoir des frissons dans les commentaires à une musique.
Qu'est-ce que c'est que ça? Salut Laure, bienvenue. Salut. Dans RMC Running.
Merci.
Merci d'être là en studio avec moi. Je suis ravi vraiment de t'accueillir. Qu'est-ce que c'est que cette musique?
Eh ben, je la connaissais pas. Merci de me la faire.
Ah, c'est vrai en plus. Ouais. Ah, mais c'est génial, on va te retrouver ça. C'est dingue ça. Bon, c'est pas le meilleur moment de la prod. Ouais, certainement, ouais, c'est ça. Ouais. Laure, merci d'être là. Est-ce que ça fait toujours quelque chose d'entendre ces commentaires ou est-ce que ça y est, t'es habitué? Parce que
non, ça me donne des frissons toujours.
Ah, quand même, toujours.
Ouais. Ouais, ouais. Ça me replonge un peu dans l'instant.
Ça te replonge dans l'instant, ouais. Et dans ces moments mémorables. On a reçu de grands noms du sport français, Johan, dans ce podcast, mais c'est peut-être un des plus grands, là. Alors, c'est,
vous ça me mettez la pression, là, du coup.
Non, bah, t'inquiète pas. Alors là, c'est plutôt à nous d'avoir la pression. Première Française championne olympique de natation. Bah, on se souvient tous de Laure quand elle a établi ce magnifique exploit et cette médaille d'or à Athènes. Tu t'en souviens forcément, Yodu, j'imagine.
Bah oui, parce qu'on est de la même, on est quasiment de la même année, de la même génération avec Laure, donc effectivement, bah on a tous regardé ça à la télé, et c'est vrai que c'était devenu une rockstar, c'est vrai que ça donne des frissons, hein, d'écouter ces trucs-là. J'ai l'impression qu'il y a que le, enfin moi, il y a que le sport qui peut mettre dans des états de transe ou avoir des frissons juste en écoutant quelqu'un raconter une course et la vivre par procuration, que ce soit à la radio ou la regarder à la télé, ça te donne des frissons, c'est dingue. Alors que voilà, je connaissais pas. Laure, je ne la connaissais pas personnellement à l'époque, mais c'est dingue comment tu t'identifies à quelqu'un et comment tu le pousses alors que tu ne le connais pas. C'est juste parce qu'il est français et que tu as envie qu'il réussisse. Et ça te, c'est toujours dingue d'entendre ça.
Et puis, à l'aspect 17 ans, voilà, tout le monde s'identifie à toi. Oui. Quand il y a des ados, forcément, on se dit ouais, mais c'est incroyable ce qu'elle est en train de faire. Quand, à l'époque, les pères et mères de famille devaient se dire si c'était ma fille qui avait fait ça. C'est vrai que le commentaire radio a ce truc de il y a de l'émotion en télé, mais la radio aussi, c'est uniquement par la voix. Et nous, à chaque fois qu'on reçoit des sportifs, bah, je me mets à votre place, Laure, et je me dis, mais ouais, ça doit te replonger. Tu dois avoir des images qui reviennent dans ta tête, ça doit être fou, ça c'est sûr.
Ouais, ça revient automatiquement. Et c'est vrai qu'avec avec les images, il y a toutes les émotions, forcément, il y a les frissons, parce qu'on se rend compte aussi que c'était il y a 20 ans, mais que c'est toujours aussi frais dans la mémoire,
évidemment.
Dans la mienne et dans celle des gens quand ils me croisent dans la rue. Et comme disait Johan, c'est vrai qu'il n'y a que le sport qui peut donner autant d'émotions aux gens, peut-être aussi les concerts, la musique, mais de se transcender pour quelqu'un d'autre à travers un écran ou juste en entendant la voix d'un commentateur, je trouve que c'est très puissant et ça nous amène à des énergies et des émotions très très fortes.
Tu as connu le Graal très jeune, on le disait, donc 17 ans. Tu n'as pas eu que cette médaille d'or, hein. Tu as eu 3 médailles sur ces JO d'Athènes, donc ouais. Tu étais au très haut niveau avant même ta majorité. Famille de sportifs au départ, ton papa et ta maman pratiquaient le sport à très bon niveau, donc toi, tu as été tout de suite bercé dans cet univers sportif quand tu étais petite.
Tout de suite, je pense que ça a fait partie de notre éducation. Mon père a fait du hand, était entraîneur de hand. Ouais. Ma mère a fait du badminton.
Ouais.
Et au-delà de ces sports-là, en fait, nous, quand on rentrait de l'école, on allait forcément faire du sport, que ça soit une bagarre entre frères ou du basket dans lotissement. Et c'est vrai que le sport a guidé notre vie et je pense que ça nous a donné certaines valeurs que les non-sportifs ne peuvent pas avoir, je pense.
Pourquoi la natation ?
La natation, parce qu'on allait en Bretagne tous les ans en vacances en camping avec mes parents et c'était nécessaire de savoir nager.
Okay.
Donc on s'est dirigé comme ça et étant donné que moi j'ai deux frères, c'était plus facile.
Un grand, un petit.
Ouais. C'était plus facile pour mes parents de nous mettre tous les trois dans le même sport et ça leur évitait de faire le taxi aussi trop souvent.
Parce que ton grand frère est devenu entraîneur. Florent, tout le monde le connaît évidemment, puisqu'il a fait une grande carrière lui aussi après toi. Ouais. Forcément, la famille Manodou, ça parle à tous les Français, même quand on n'est pas fan de sport. Ce succès très jeune, parce qu'on t'en parle beaucoup, Laure Manodou, ça dépasse même le cadre du sport. C'est de la notoriété publique. Hein. Tu as vécu des choses qu'on ne devrait pas vivre à cet âge-là, d'ailleurs. Donc ça a dû te forger ton caractère, forcément.
Ça m'a mis une grosse carapace.
Ouais, ça c'est sûr, forcément, mais ce mental de championne, cette envie d'aller tout arracher, tout gagner, tu l'as eu toute petite ou c'est à force de t'entraîner dans ces années-là que tu l'as développé ? Et est-ce que tu l'as encore aujourd'hui quand tu participes à n'importe quel défi que tu te lances d'ailleurs ?
Je pense que le fait de vouloir gagner tout le temps, c'est déjà d'être dans une fratrie, donc avec deux garçons,
oui,
d'être
la seule
au milieu
fille. Ouais.
Et de devoir me faire ma place parce qu'il y avait beaucoup de bagarres tout le temps, même si c'était bienveillant, mais notre fratrie, même si elle est très très soudée aujourd'hui, et c'est souvent les retours qu'on a, il faut se faire une place quand on est une femme. Et surtout entre deux frères qui sont quand même assez hyperactifs. Donc je pense que j'ai développé un peu ce truc-là de la gagne grâce à mes frères. Et on l'a maintenu tout au long de notre vie finalement.
Mais toi, tu as percé la première, parce que Florent est arrivé après, mais c'est toi qui as percé au plus haut niveau, en plus très jeune, donc ça a dû l'inspirer lui aussi, j'imagine d'ailleurs.
Ouais, je pense que ça lui a montré le chemin, mais le fait de percer avant, j'ai 4 ans de plus que Flo, et en natation, en fait, les femmes sont plus précoces que les hommes, et du coup, moi je suis partie de chez mes parents à 14 ans, donc mon petit frère avait 10 ans.
Chez Philippe Lucas.
Ouais, chez Philippe Lucas. Ouais. Et je vois aujourd'hui, moi, ma fille a 15 ans et je me dis, mais si jamais elle s'en va maintenant...
Oui, c'est ça, bien sûr.
C'est chaud, ça me fait un peu peur.
Ouais.
C'est pas le cas parce qu'elle fait pas de sport de haut niveau, mais maintenant, ça s'ouvre beaucoup plus rapidement et les gens peuvent voir les potentiels dans les sportifs plus tôt.
J'aime bien ce parallèle entre la natation et la course à pied, Johan, parce que quand on pense à ces sports, on adore les regarder quand il y a de gros événements, championnat du monde, Jeux Olympiques, etc. Mais on a tous en tête que ce sont des sports de sacrifice. Ces sports
ingrat.
Tellement difficiles, des sports ingrats. Course à pied, on le sait, mais la natation, c'est le sport ingrat par excellence. Donc c'est particulier. Alors ça aussi, ça forge un caractère parce que c'est très dur. T'as connu ça très jeune et il a fallu t'infliger des kilomètres et des kilomètres dans les bassins pour devenir la championne que tu es devenue.
Bah, je pense que ça a fait partie de mon quotidien, donc je ne l'ai pas vraiment pris comme un sacrifice. Aujourd'hui, je pense que oui, si je vais nager, je me rends compte que c'est difficile. Ouais. Mais ça m'a permis aussi d'être dans ma bulle, comme je disais tout à l'heure, avec ma carapace, et d'être seule avec moi-même et d'être tranquille, finalement, la tête sous l'eau, et que personne ne me dérange, en fait.
Ouais. On prend du plaisir dans la souffrance à l'entraînement, par exemple ?
Non. Non, vraiment pas.
Ah, mais ça, c'est intéressant.
On prend du plaisir en compète, mais on sait que pour aller en compète, il faut s'entraîner. Ouais. Et moi, je connaissais très, très bien mon corps et je savais jusqu'où je pouvais l'amener au niveau des entraînements. Et par exemple, quand Philippe Lucas me disait tu fais cette série-là, tu fais tel temps à tel moment, je savais que si je réussissais un super entraînement, les deux d'après, je faisais plus rien parce que j'avais tellement bien réussi avant que je pouvais me permettre ça. Aujourd'hui, je pense avec un petit peu de regret, j'aurais pu aller plus loin dans ma perf, mais j'étais accompagnée comme ça et c'est ce que je méritais de faire à ce moment-là.
Il y a ce système d'algorithme comme en course à pied, c'est-à-dire entraînement difficile, lendemain récupération, ou vu que c'est un sport porté, c'est un peu différent, tu peux mettre de l'intensité systématiquement. Comment ça marche
d'ailleurs ? Non, je pense qu'on peut mettre de l'intensité. Alors moi, je ne suis pas coach, mais...
Coaché des années.
C'est pas mon métier.
Ouais, bien sûr.
Mais non, je pense qu'étant donné qu'il n'y a pas vraiment de choc physique, on peut nous enchaîner beaucoup plus rapidement. Après, il y a beaucoup de tendinite aussi aux épaules, puisque nos épaules sont pas faites pour enchaîner, tourner autant de fois par jour. Mais ça reste quand même assez léger par rapport à la course à pied.
Tu tournais à combien de kilomètres semaine dans les grosses semaines d'entraînement à l'époque ?
Semaine, je comptais plus par jour. On en faisait 18 par jour.
18 par jour. Ouais. Même Johan, parfois, il ne fait pas 18 bornes par jour. Bon, en ce moment, il ne les fait pas. Ça, c'est sûr.
En ce moment, non.
Mais Johan, quel regard tu portes sur ce sport si difficile, sur une championne comme Laure ? Est-ce que tu es impressionné ? Parce que toi aussi, tu es issu d'un sport très difficile. Je pense que si, à mon avis.
Moi, j'ai toujours classifié la natation comme l'un des sports les plus difficiles. Alors, c'est peut-être aussi lié au fait que je n'aime pas aller à la piscine et j'aime pas nager, et donc du coup je le vois un peu comme un truc de dingue. Mais quand je vois les nageurs et ce qui est dingue chez les nageurs aussi, c'est leur capacité à avoir une discipline. C'est-à-dire que moi, je vais à la piscine, j'y allais à 6h du mat, les mecs ils étaient déjà dans l'eau, tu vois. Et ça parle pas, ça dit rien, tu vois. Nous on s'entraîne dur en course à pied, on fait des volumes presse des fois sur marathon à 200 km par semaine, mais il y a 70% de l'entraînement qui est de l'endurance fondamentale où tu peux discuter, où tu es dans la nature, où tu es avec tes potes et tu blablates et tu parles. La natation, ça n'existe pas. Ça, tu es tout seul dans ton couloir, et je voyais les mecs et ça nage, ça s'arrête au bord du bassin, ça boit un coup, ça regarde la pendule et dès que la flèche... D'ailleurs, il faudra m'expliquer comment ça marche parce que j'ai toujours pas compris ce système d'avoir une ampoule, enfin une
aiguille,
une horloge avec quatre aiguilles. Faudra vous expliquer ça. Ouais. Mais effectivement, non, cette discipline, et ça, il n'y a qu'en natation, parce que je trouve que le vélo est dur aussi. Le vélo, c'est dur parce que tu pars sur 4-5 heures, il y a un risque de chute et tout ça. Ouais. Mais malgré tout, c'est comme la course à pied. Tu vois du paysage, tu blablates avec tes potes, tu peux chiller de temps en temps. En natation, ça n'existe pas, ça. Puis tu sens le chlore, t'as la peau sèche, enfin, il y a tout ce qui va
ça,
avec.
Non, mais c'est vrai que qui a envie déjà de se mettre la tête dans l'eau à 6 heures du matin,
bien sûr, l'hiver.
Tous les matins. Ouais. C'est vrai que c'est plus compliqué que la course à pied, mais en même temps, quand on a une personnalité à vouloir être tranquille et à faire la personne, c'est génial. C'est génial.
C'est ça, ouais.
Mais la motivation à aller dans l'eau tous les matins, c'est compliqué. Et en fait, moi, je me mettais en pilotage automatique, c'est-à-dire je déconnecte complètement mon cerveau, je ne réfléchis pas, je me lève, je vais nager et je fais mon truc, en fait.
En carrière, tu avais l'amour de ton sport quand même ? Ou c'était le palmarès, la gloire qui t'animait, le fait d'aller perfer, d'aller chercher des médailles et établir des records ?
Alors en fait, je n'ai jamais aimé nager. Ça, je l'ai souvent dit, les gens n'ont pas vraiment compris. Ouais. C'est, j'aime les sensations que ça me procure, en fait, d'être dans l'eau, de glisser, et l'amour de la gagne. Tout simplement.
C'est ça qui t'animait et qui te forçait à aller, enfin qui te permettait d'aller dans le bassin tous les jours.
Philippe Lucas derrière.
Ouais, ça c'est sûr. On y serait tous allés là. Ça c'est sûr qu'on aurait, pas hésité. Est-ce que tu aimes nager aujourd'hui ?
Je nage plus. Du coup, je vais à la piscine avec mes enfants. Mais
Tu leur apprends à nager, tes enfants quand même ?
Non, c'est pas moi qui leur
apprends. Ah, même pas ?
Non,
ah ouais,
non, parce que sinon ils veulent pas.
Ouais.
Mais surtout, je préfère laisser la chose au coach et ceux qui ont plus de pédagogie que moi.
Ouais.
Mais sinon, non, je nage plus. Je préfère faire des sports un peu plus plaisir, c'est-à-dire dans la nature, comme le dit Johan, et c'est quand même vachement plus cool. Ouais.
Tu as trois enfants aujourd'hui, on l'a dit. Tu as une fille qui est née en 2010, c'est ça, Manon, qui est grande, qui a 15 ans aujourd'hui, tu nous en parlais. Tu as deux petits garçons qui sont encore jeunes, mais qui commencent à être turbulents, j'imagine, avec les années. C'est quoi les âges d'ailleurs de tes garçons?
J'ai un petit garçon qui s'appelle Lou, qui a 8 ans, et un autre petit garçon qui s'appelle Sacha, qui a 4 ans.
Ouais.
Je cours derrière lui du coup.
Ah voilà, c'est ça. Donc au moins la course à pied vient de là. Mais ils n'ont pas connu maman championne. Ils connaissent maman star et aimée des Français, parce que j'imagine que quand tu croises quelqu'un, on te demande des photos, ce genre de choses. Donc ça, ils doivent s'en rendre compte.
Mais un petit peu de temps en temps.
Ils ne t'ont pas connu sportive, quoi.
Non, ils ne m'ont pas connu sportive et je n'ai pas forcément envie de leur montrer cet aspect-là de moi. Ouais. Ils l'ont vu forcément l'année dernière, puisqu'ils sont venus sur les JO.
Ah, et sur les JO aussi.
Docu aussi. Ah ouais, okay. Mais c'est vrai que pour moi, j'ai envie qu'ils me voient en tant que vraie maman, en fait, et pas la championne que j'ai pu être. L'année dernière, forcément, j'ai fait quelques petites interventions dans l'école de mon grand garçon, où là, il était quand même très fier que je puisse parler de tout ça et d'amener des médailles. Mais pour moi, l'important, c'est vraiment qu'il voit la personne que je suis à l'intérieur et pas tout ce que j'ai pu faire et qu'il ne me voit surtout pas comme les gens peuvent me voir aujourd'hui.
Ta fille, c'est différent parce que c'est une fille que tu as eue avec Fred Bousquet, qui était nageur de très haut niveau. Donc elle a été baignée, entre guillemets, dans le milieu de la natation. Comment elle l'a vécu et comment elle le vit aujourd'hui, d'ailleurs?
Je pense que là, elle est dans une période de sa vie où elle s'en fout un peu parce qu'elle est ado.
D'accord.
Mais je pense que c'est compliqué pour elle parce que c'est la fille d'eux. Et je peux comprendre que c'est compliqué.
Elle a voulu faire de la natation?
Non, pas du tout. Elle faisait de l'équitation, elle vient d'arrêter.
Okay.
Mais c'est vrai que c'est la fille de Laure, la fille de Fred et la nièce de Florent Manodou.
Ouais.
Donc,
ça fait beaucoup.
Quand on fait du sport, du coup, on réfléchit dans quel sport on va aller, parce que moi, je ne voulais absolument pas que mes enfants fassent de la natation.
Ouais.
Je leur interdis pas, mais j'avais pas envie. Qu'à une compétition, c'est forcément ils vont être forts parce que dans la famille ils sont comme ça. Donc non, je surveille un petit peu ce côté-là. Ouais.
En revanche, tu les pousses à la pratique sportive ?
Je les pousse pas, je les encourage parce que j'ai pas envie de les forcer et que ça les dégoûte. Mais je vois qu'en fonction des enfants et des personnalités de mes enfants, il y en a qui sont plus ok et d'autres moins.
Ouais.
Je sais que le petit de 4 ans, ça va donner.
Il faudra le mettre au sport.
Franchement, c'est nécessaire. Là, j'ai passé un week-end, c'était juste trop compliqué.
D'accord.
Mais sinon, ouais, je pense que c'est important dans la vie pour se construire aussi avec de belles valeurs.
Ouais, c'est sûr. Johan, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça ? Tu comprends aussi cette décision de Laure de surtout pas pousser ses enfants et de pas les mettre face à cette pression qui pourrait naître. C'est vrai que parce que s'ils avaient décidé de faire de la natation, ça aurait été très compliqué pour eux, comme tu le dis, d'être fille d'eux et puis fils d'eux ensuite pour tes deux garçons.
C'est toujours compliqué, ouais. Après, dans le sport, on a quand même des exemples de fils d'eux qui ont réussi dans le même sport. Tu vois, dans le rugby, ils sont un paquet d'anciens joueurs, enfin de joueurs à être père, à être l'enfant d'un ancien international ou autre.
Ouais.
Effectivement, après, c'est propre à chacun et c'est propre à l'enfant, tu vois. Et il faut vraiment qu'il fasse ce qu'il a envie, ça c'est une certitude. Hein. Je pense que Laure, elle a tout de suite pris conscience de ses capacités assez vite. Hein. Je pense que dès l'âge de 10 ans pour partir avec Philippe Lucas à l'âge de 14, je pense que elle a été détectée assez vite et tout de suite.
À quel âge t'as identifié leur potentiel très haut niveau ?
C'est ça.
13 ans.
13 ans, ouais.
13 ans, ouais, voilà. Philippe Lucas est venu voir mon père et lui a dit si je m'en occupe, à Athènes, elle sera championne olympique.
Pam, tout ça.
Moi, je l'ai su des années après, heureusement, mais j'ai peut-être que Philippe Lucas l'a vu beaucoup plus tôt, mais en tout cas, la discussion a été vraiment quand j'avais 13 ans.
Comment toi, en tant qu'enfant et ado, tu as vécu tu le racontes un peu dans le doc, c'est pour ça que je me permets de t'en parler, ce départ, le fait de quitter tes frères et tes parents pour aller t'installer chez ton entraîneur?
Moi, je l'ai super bien vécu. parce que quand on est ado, des fois, on est un peu bête pour rester poli. Et puis, et j'avais envie de... Moi, en fait, quand j'ai regardé les Jeux Olympiques de Sydney à la télé, je me suis dit, c'est possible, j'ai envie de faire quelque chose. Je me suis réveillée le lendemain et j'avais rêvé que j'étais championne olympique. Donc, à partir du moment où je l'ai rêvé, pourquoi pas, en fait? Okay, je vais mettre tout en œuvre pour y arriver. Et ça a été pour moi très facile, justement, de m'émanciper et de partir de chez mes parents, surtout parce que j'avais aussi la figure de Philippe Lucas qui était très rassurante. J'ai toujours dit, c'est mon deuxième papa, donc ça le reste toujours.
Il y a cet aspect boom médiatique quand même, parce que je l'ai dit, c'était une génération avant le grand développement des réseaux sociaux, mais c'était les grandes époques des grosses audiences télé. Tout le monde savait qui tu étais quand tu es rentré comme ça des Jeux d'Athènes. Tu as pris ce truc, les paparazzi, les journaux People et tout. Ça, c'était un peu une déflagration, ça fait partie de ton histoire. C'est très bien raconté dans le doc Laure de Canal+, de Laurie de l'Hostal qu'on salue d'ailleurs, qu'on avait reçu ici. ça a impacté la suite de ta carrière, tu penses ? Si ça avait été moins important, moins soudain et moins fort, c'est-à-dire moins percutant, tu penses que tu aurais mieux vécu le reste de ta carrière ?
Je pense que peut-être que ma carrière aurait été plus longue.
Ouais.
Ça a été vraiment compliqué, moi, au niveau des médias, et je le prenais vraiment comme une attaque à chaque fois.
Ouais.
Donc, je me renfermais petit à petit encore plus dans ma bulle. Et...
Alors que c'était déjà un aspect de ta personnalité, ouais. C'est-à-dire que ça l'a renforcé encore plus. Ouais.
Moi, à la base, j'étais très timide et très renfermée, et le fait d'avoir mis un peu les projecteurs... Moi, je ne faisais pas du sport pour ça, déjà, à la base.
Ouais.
Donc, c'est très bien, c'est que je devais le vivre, mais je l'ai pris un peu... Ouais, c'était compliqué. Vraiment, au niveau tout ce qui est psychologie, mentale et tout ça, ça a été difficile. Et je me suis rendu compte que tout ce que je faisais était épié. Donc, il ne fallait pas que je me trompe. Il ne fallait pas que je fasse un pas de côté. Et en même temps, j'avais quand même cette personnalité de me dire quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et surtout, quand je n'ai pas envie, je ne le fais pas.
Ouais.
Donc, ça a toujours été un peu compliqué. Ouais.
C'est impossible, Johan, de se mettre à la place de l'or dans ces situations. Non. Toi, t'as croisé des légendes dans ta carrière. Bah, je pense à, par exemple, à Eliud Kipchoge, qui est la légende du marathon, double champion olympique qui rêvait de l'être une troisième fois qu'il n'a pas pu l'être à Paris. Tu le sentais, toi, Johan, quand t'étais dans un sas de départ à côté d'un mec comme ça, qu'il était épié, que le comportement était différent et que lui devait surveiller tout ce qu'il faisait avant de s'élancer, par exemple ?
Ouais, c'est vrai que moi je l'ai vu avec Eliud quand on a fait l'opération à Paris sur les Champs-Élysées, c'était vraiment une rockstar et tu avais l'impression qu'il était débordé. Enfin, qu'il n'était pas dans son environnement, qu'il était dépassé par tout ce qu'il crée autour de lui, tu vois. Et lui, la seule chose qui lui plaît, et c'est pour ça qu'il est bien là-bas, c'est d'être au Kenya, tout seul, au fin fond de la montagne, dans un village isolé à 2400 mètres d'altitude,
avec
juste son groupe d'entraînement. Et ouais. C'est 10 gars avec qui il court. Et ça s'arrête là. Et il sort très peu. Quand tu es au fin fond du Kenya, tu n'as rien à faire. Donc, au moins, il n'y a pas de journaliste. Tu ne vas pas au resto, tu ne vas pas au ciné, il n'y en a pas. Donc, effectivement, et quand il venait en Europe, effectivement, tu voyais que ça le pesait. Tu vois, quand il est sorti, moi, j'avais eu la chance de lui faire lièvre sur cet événement-là. Quand il est sorti du restaurant et que c'était comme si Mbappé sortait du resto, tu voyais que... Il n'était pas armé pour ça et il n'a pas fait de la course à pied pour vivre ces moments-là, tu vois. C'est comme l'or. C'est un gamin qui aimait courir et qui est devenu un grand champion, mais qui n'avait pas les épaules pour supporter autant de pression. Donc c'est pour ça qu'il vivait, il vit au Kenya tranquillement avec son groupe d'entraînement. Ouais.
Et ça, tu le comprends parfaitement. Parce que nous, on se dit, avec tout ce qu'il a acquis, tout l'argent qu'il a mis de côté et tout, pourquoi il s'inflige ça d'aller encore dans son camp au Kenya avec ses payseurs, etc., de continuer à faire ça. Mais toi, tu peux comprendre cette démarche. Ouais.
Moi, j'adore m'isoler, j'adore passer du temps toute seule, donc je comprends. Et c'est vrai que quand il y a beaucoup de monde, moi, ça m'oppresse et ça me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie de donner aux gens et c'est pas ma personnalité, donc ça dépend vraiment des gens et comme Yann le disait tout à l'heure, c'est vraiment propre à chacun et ça c'est personnel, on peut pas vraiment le contrer aussi et quand on est une personnalité comme ça, on se doit aussi de donner aux gens, donc c'est un peu controversé, on sait pas trop
parce que les gens ont l'impression de te connaître, c'est assez bizarre mais comme si tu leur devais quelque chose alors que pas du tout
et puis au final, y en a très très peu qui me connaissent vraiment
bien sûr.
Donc c'est par rapport à ce que je disais à mes enfants, c'est que les enfants savent la personne que je suis à l'intérieur. Alors que les gens qui viennent vers moi et qui me disent « Ah, mais je te connais !» moi, ma petite tête... la petite voix dans ma tête dit « Bah non, en fait, tu ne me connais pas.
» Tu sais ce que tu as vu, mais c'est pas... Ouais, c'est ça.
Ouais, après,
tu m'as vu gagner des courses, mais...
C'est pas mal intentionné, mais c'est vrai que les gens ont tendance à... c'est la seule fois dans leur vie où ils me croisent et forcément, il faut que je donne aussi.
Et toi qui marchais à l'objectif, à la compète, à la victoire, comment on digère un lendemain de victoire ? Parce que je pense aux gens qui t'écoutent et qui peuvent s'identifier quand ils ont un but comme ça sur marathon, d'aller chercher un chrono ou sur l'autre distance. Quand c'est acquis, comment on fait pour se relancer dans des sports si difficiles, quoi ?
Moi, j'avais la chance d'avoir plusieurs courses dans la même compétition. Donc, par exemple, je gagne le 400. Le lendemain, j'ai le 100 dos.
Ouais.
Donc, je sais que ça me permet de passer plus vite à autre chose. Et en même temps, c'est frustrant parce que tu ne peux pas profiter.
Ouais.
Mais moi, toutes les compétitions que je faisais, en fait, je les prenais comme des championnats régionaux. Que ça soit les JO, les championnats du monde, championnats d'Europe ou peu importe.
Ouais.
Comme ça, ça me permettait de ne pas trop m'attarder sur cette victoire ou cette satisfaction-là.
Mais en fin de compète, en fin de quinzaine, tu ne prenais pas le temps de digérer et de te rendre compte, de réaliser ce que tu avais fait ?
Non, je pense que je m'en suis rendu compte une fois que j'ai arrêté de nager.
Ah ouais,
avec justement les gens qui m'arrêtaient dans la rue.
Ah, et, okay.
Ouais, mais parce que moi, j'ai l'impression de devoir me battre dans la vie. Enfin, c'est pas vraiment le mot, mais en me disant, je suis comme tout le monde.
Ouais.
Et j'ai pas envie de me dire, ah là là, j'ai fait ça, c'est génial.
Ouais, ok. Mais t'as raison de réagir comme ça. Ouais.
Donc,
ça, c'est sûr.
C'est peut-être l'éducation que j'ai reçue, ouais. mais ça me permettait justement de un peu d'oublier quoi.
Léon a un mode de fonctionnement différent. Léon Marchand, qui est la nouvelle star de la natation française, hein, qui a fait des Jeux Olympiques de Paris fantastiques. Il a pris le temps là, de décompresser, de complètement lâcher. Et là, il a repris la compète à Fort Lauderdale la semaine dernière en Floride pour se relancer. Il a bien fait comme ça de souffler, à ton avis, et pour pouvoir passer à autre chose quoi.
Je pense qu'il a bien fait d'écouter ses besoins déjà. Ouais. De partir à l'étranger, c'est une bonne chose, puisque après les JO, après toutes...
Oh oui, il fallait fuir Paris.
C'est sûr. Fuir Paris et
Toulouse.
Fuir la France.
Ouais, c'est vrai.
Mais je pense qu'il a eu besoin vraiment de couper et de se recentrer sur ce qu'il avait besoin, ce qu'il avait envie. Et l'année post-JO, c'est toujours super compliqué parce qu'on est très, très attendu. Et là, je sais qu'il n'a pas forcément fait les perfs qu'il espérait, ou en tout cas ce que les gens espéraient de lui.
C'est ça aussi.
Et je pense que ça met une pression incroyable sur un sportif et ça peut jouer dans tout ce qui est mental et c'est pas forcément cool.
Si on reparle de ton rôle de maman, je le disais, donc des âges différents, des problématiques différentes, une ado 15 ans et puis ensuite 4 et 8 ans les deux garçons. Comment on s'organise ? Est-ce que, parce que quand on a des enfants en bas âge, surtout toi qui es très impliqué avec tes enfants, bah on s'oublie un peu et on fait passer les enfants avant tout. Là, est-ce que ça commence un peu à changer ? Parce que ça y est, le plus jeune a 4 ans, donc il va à l'école, comme tous les enfants.
Il est à la maison.
Ouais, c'est ça, t'imagines ? Non, je fais cours à la maison.
Il est là,
il est hyper actif et je m'en occupe tout le temps. Non, mais c'est sûr, mais est-ce que ça te permet de te relancer des défis sportifs, des défis professionnels ? Est-ce que tu es dans cette période-là ? Est-ce que tu es contente de vivre cette période-là aussi ?
Ouais, je suis exactement dans cette période-là, puisque ma fille va passer en seconde, donc du coup, il y a un peu l'orientation qui se fait. C'est pas la vie active, mais bon, tu te rends compte qu'il y a un peu plus d'indépendance.
Ouais.
Et le dernier qui a 4 ans, qui est à l'école, et je me dis, en fait, maintenant, c'est à moi. C'est à moi de prendre du temps pour moi. J'ai apprécié ces moments-là. J'ai apprécié aussi ce grand tunnel de presque 10 ans de ne pas savoir quoi faire.
Ouais.
Et là, ouais, j'ai envie de retourner un pied dans le sport et de trouver un peu des challenges que j'ai envie de me lancer. Parce que moi, je fonctionne que comme ça.
Ouais, on a compris. Ça, on s'en rend compte.
Donc, j'ai envie de me faire plaisir et de voir aussi, même après des années, jusqu'où mon corps peut aller. Je sais qu'il n'ira pas plus loin.
Ok.
Je sais que je ne vais pas claquer des grosses perfs, mais j'ai envie aussi de tester mon mental parce que moi, je suis une passionnée de tout ce qui est psychologie mentale.
La santé mentale, c'est un sujet qui te passionne d'ailleurs.
Ouais, santé mentale, bien-être et tout ce qui se passe dans la tête de l'être humain, pas forcément le sportif, mais pourquoi on part dans une direction et pas une autre. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse.
Mais t'as envie de t'investir dans, on va reparler du sport dans un instant, mais de t'investir dans ce rôle de conseil aussi, parce que toi, t'as traversé beaucoup de choses, plus que n'importe qui d'ailleurs, dans des domaines différents, mais d'apporter cette expérience à ceux qui se posent des questions et qui ont besoin d'aide.
Ouais, j'aimerais bien. Le partage d'expérience, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus riche. Même si on est tous différents, on a tous des réactions différentes, mais pour moi, tout est un problème de légitimité. Mais c'est vrai que si je peux aider les gens, c'est avec plaisir. Ouais.
T'en as marre d'être reconnue comme une championne olympique de natation, par exemple ? Ou pas ?
J'ai toujours eu du mal à dire, alors ça, c'est déjà très compliqué de dire, je suis championne olympique. Pour moi, j'ai gagné une médaille d'or au JO. Ne pas se mettre en avant. Mais pour moi, c'est vrai, c'est pas forcément le fait de gagner une médaille d'or au JO qui fait que j'ai cette passion pour l'être humain. C'est plus vraiment vouloir comprendre pourquoi les gens font tel choix.
Tu nous parlais de défis sportifs, qu'est-ce que tu as en tête alors ? Qu'est-ce que tu veux faire ?
Tu vas me poser la question si je veux faire un marathon.
Oui, mais ça viendra après.
Il y vient progressivement.
Je viens doucement, je t'amadoue comme ça et hop.
Pose ta question directe alors.
Non, mais je veux savoir ce que tu veux faire. C'est toi, qu'est-ce que tu as envie de faire ?
Moi, j'ai envie d'aventure humaine avant tout. J'aimerais bien faire un trek au Népal. J'ai une copine qui organise ça.
Ok, ouais.
Donc je me tâte.
Tu vas tester ton mental là.
Ouais, mais c'est de la marche, c'est pas de la course.
Ouais, mais c'est dur quand même.
Et c'est vrai que moi je suis longue à donner ma réponse.
Tu prends le temps de réfléchir.
Ouais. Moi je suis un diesel, il faut du temps.
Ouais.
J'aimerais bien quand même, je vais rentrer direct dans le sujet, j'aimerais bien faire un marathon un jour.
Ouais.
Parce que je pense qu'au-delà du sportif, il y a aussi justement le mental qui joue vraiment dedans. Et j'ai envie de voir le mur à quel moment il arrive et si j'arrive à l'escalader.
Mais connaissant ton état d'esprit, si tu abordes un marathon, comment tu vas l'aborder ? tu vas l'aborder à bloc en te disant je vais au maximum de mes possibilités, j'ai déjà un chrono en tête et tout, ou tu vois le défi sportif et tu te dis bah, je vais faire ce que je peux et je m'enlève cette pression que je pouvais me mettre quand j'étais sportif professionnel?
Bah là, j'allais te dire, en tant qu'ancienne sportive de haut niveau, c'est difficile d'arriver sur une ligne de départ du marathon et de se dire « Oh non, mais je vais le faire cool ».
Il y en a qui le font, hein. Ouais, ça arrive.
Je ne sais pas comment ils font. Ouais, mais c'est... peut-être, hein, peut-être ouais. Que le premier, il faudrait que je fasse comme ça, et justement pour évaluer et voir un petit peu les repères d'une course comme ça. Et le deuxième, essayer de faire une perf à la hauteur de mes.
Allez, déjà
capacités.
Au deuxième marathon, c'est gagné, Johan. C'est bon, là, c'est fait.
Ça y est.
C'est bon, c'est fait.
Elle est motivée.
Pourquoi la course à pied ? Plus qu'un autre sport, c'est le fait d'être dehors. Est-ce que le trail, ça t'attire, par exemple, courir en nature, ou est-ce que tu n'y penses pas pour
Moi, la nature, j'adore ça. J'adore être dehors et ça m'apporte beaucoup de bien-être, de calme. Et, ouais. Et c'est quand même assez différent de la tête dans le chlore.
Ouais, bien sûr.
Et je pense
ouais.
que ça, la course à pied, ça permet justement de s'évader dans sa tête et de tout lâcher. Mmh. Donc, ouais, j'ai envie de tester ça. Je ne suis pas une grande coureuse, hein, mais... Mais je cours à mes heures perdues de temps en temps.
Mais ce qui est intéressant, est-ce que tu as dû prendre du plaisir quand tu cours ?
Alors, le premier mois, non. En fait, moi, je suis généralement sur l'éternelle reprise.
Voilà.
Donc, j'ai un peu de mal à kiffer. Ouais. Mais je sais que une fois que j'ai mis le bouton sur on dans ma tête, je sais que ça peut très bien se passer.
Tout se passe là-haut, quoi. Dès que tu déclenches, c'est parti, quoi.
Ouais. Ouais. C'est la motivation.
Johan, quand on a été une grande championne de natation comme ça, est-ce qu'il y a des qualités qu'on a développées qui vont nous aider à être performants en course à pied ? Est-ce que niveau cardio, alors, quoi qu'il arrive, on retrouvera des données très satisfaisantes ? Et j'imagine qu'il y a un écueil à éviter, c'est l'aspect musculaire, parce qu'elle n'a pas du tout été habituée à avoir ce type de contraintes, par exemple.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Le point fort de Laure, ça va être son excellent, comme tu le dis, cardio, hein, tout simplement. Quand tu as nagé pendant X années, elle a développé des capacités cardiovasculaires très intéressantes. Elle a une force musculaire. Alors, effectivement, dans les nageurs, c'est quand même beaucoup dans le haut du corps. Et la course à pied, le haut du corps, il ne sert pas à grand-chose. C'est plutôt le bas du corps. Mais malgré tout, elle est quand même assez solide. Et après, j'en parlais tout à l'heure, du point de vue discipline, ces gens-là, c'est des gens qui connaissent, qui savent se fixer des objectifs et comment y arriver pour les atteindre. Ça, c'est quand même des points forts très importants. Après, effectivement, l'impact articulaire, tous ces traumatismes, ils ne connaissent pas parce que c'est spécifique à la course à pied. Il n'y a pas la même sollicitation des jambes en natation. Donc là, c'est quelque chose qu'il faudra travailler assez rapidement. Mais malgré
D'accord.
tout, le fait d'avoir ce cardio de base,
j'ai compris.
Ça va.
C'est bon ça. Non mais, en revanche, la muscu, t'en as fait tout au long de ta carrière.
Ouais.
Et même dans l'adolescence. Donc, quel rapport tu as avec la musculation ? Est-ce que t'aimes ça ? Est-ce que tu prenais plus de plaisir que dans le bassin ? Et comment tu voyais ça ?
À l'époque, j'aimais pas grand-chose à faire gagner. Mais aujourd'hui, ouais, je prends plaisir à faire du sport.
Ah, tu t'en fais quand même ?
Ouais,
ça
dans une salle, je me suis inscrite, je fais des cours de body pump, okay, machin, okay. des trucs ludiques.
Ouais, ouais.
Aujourd'hui, je prends plaisir à... C'est un peu bizarre de dire ça, mais à me faire mal dans le sport.
Ouais.
Dans un autre sport que la natation, parce que j'aime bien la sensation d'effort vraiment et de transpirer, de voir jusqu'où on peut aller. Donc je pense que c'est quelque chose aussi que je peux retrouver dans le running. Ouais.
Est-ce que tu sens ce dont on a parlé avec Johan, ce cardio qui est toujours au rendez-vous, qui a tellement été travaillé que finalement que tu arrives à maîtriser facilement ? Est-ce que tu as toujours cette connaissance parfaite de toi-même ? Tu sais quelle zone ne faut pas dépasser, etc. par exemple ?
Je pense qu'il a une bonne base, mon corps, ouais. à l'intérieur.
Ouais.
Mais après, il y a 3 enfants en plus, 20 ans en plus.
C'est un peu
donc,
rouillé.
Ouais. Ça ne sera pas forcément pareil, mais je sais que moi, je dirige beaucoup mon corps avec le mental et je sais que si je lui demande de faire un truc, il le fera. Donc je sais que oui, il y a quand même une bonne base.
Qu'est-ce que tu accordes comme importance au regard des gens quand tu te lances un défi sportif, quand tu vas faire un footing dans la rue si on te reconnaît, quand on te croise, quand tu as fait quelques défis aussi comme ça, sportifs, défis aventure. Comment tu l'as vécu ça, le fait que les gens se disent « Oh, il y a Laure Manaudou à côté de moi ».
C'est super compliqué.
Ah, c'est compliqué.
Pour moi. Ouais. Parce que les gens ont tendance à penser que tu es champion olympique et donc tu vas être fort dans tous les sports.
Ouais.
Et du coup, c'est aussi pour ça que moi, j'ai pas fait le marathon pour tous.
Ouais.
C'est aussi pour ça qu'après ma carrière, j'ai voulu faire du tri, mais je l'ai pas fait parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à le dire,
dans l'eau,
tiens, on te file une licence, on fait ci, on fait ça.
Tiens, viens chez nous, fais ça, telle marque, tel truc. Ouais,
et c'est vrai que je le vis pas forcément très bien parce que moi, j'ai envie d'un côté de faire du sport plaisir et pas compète.
Ouais.
Et en même temps, quand t'as quelqu'un quelqu'un qui double et qui dit « Ah, je suis en train de doubler l'Armanodou » et moi qui déteste perdre, bah, j'ai pas envie qu'on me double.
Ouais, d'accord.
Donc c'est assez compliqué à gérer. Ouais. Donc c'est pour ça qu'un marathon à l'étranger, ça serait mieux qu'en France.
Oui, voilà, parce qu'au moins, on te laisserait tranquille dans ta bulle et tu pourrais te préparer et faire ta course tranquillement.
Ouais, quoi. Exactement. Ouais.
T'as tout noté, Yodu, coach ?
C'est oui, bon je note.
Bon, tu vas l'encadrer. Alors, c'est trois mois de décision. Non
avec donc, plaisir.
On ouvre les négociations, mais bon, écoute, t'as le profil, en tout cas, pour réussir et pour t'épanouir sur cette distance, ça, c'est sûr. Et tu cherches un défi mental, là, tu vas le trouver, c'est sûr.
Ouais, ouais, c'est sûr. Et
puis je t'annonce les larmes à l'arrivée, là, c'est sûr.
Ouais, mais moi, je perds souvent. Donc
ah
ça,
bon
voilà. Alors, on se mit déjà.
Ouais, c'est ça. Et dernier mot, parce que c'est le sujet qui nous intéresse. Là, on parle à beaucoup de mamans reneuses. On a fait plusieurs épisodes. On a fait des championnes de course à pied la première fois. La deuxième fois, avec des mamans d'enfants à différentes périodes. Donc, on l'a dit, là, des très jeunes enfants, l'adolescence et puis également la primaire. Comment tu concilies ça, toi ? Comment tu gères tes enfants au quotidien ? Est-ce que tu fais du sport en milieu de journée ? Comment tu t'organises alors ?
Alors moi, je jette tout le monde à l'école, les trois, et juste après, je vais faire du sport parce que pour moi, c'est plus intéressant de le faire le matin et ça me donne plus d'énergie pour continuer la journée.
Laure, c'était passionnant de te recevoir. Merci beaucoup d'être venu dans RMC Running.
Merci.
Maintenant que tu nous as dit que ça t'intéressait, on ne va pas te lâcher.
Tu
nous connais quand même. C'est ça le problème, c'est que ça y est, tu nous as sur le dos comme ça, comme les paparazzi à l'époque.
Non, je vais courir présente. Demain du coup.
Voilà. Non, mais écoute, prends le temps de réfléchir à tout ça, mais si tu veux te lancer dans ce beau défi, être encadré, nous on adorerait comme ça t'accompagner et t'emmener vers la meilleure perf possible. Parce que j'ai c'est compris bien. Que le mental était toujours là.
Un peu.
Bon, on va y arriver.
C'est ça, le challenge.
Là, il n'y a pas de doute. Allez, on passe au bon plan matos.
RMC, le bon plan matos.
Et la marque à l'honneur aujourd'hui, c'est la marque Jolt, une marque spécialiste pour la récupération accessible à tous. On va en parler avec le cofondateur de cette marque, Émile Vuco, qui est en direct avec nous. Bonjour Émile.
Bonjour à tous.
Merci d'être là sur un sujet qui intéresse tous ceux qui nous écoutent, hein, tous les fans de course à pied. La récupération, ça devient un élément essentiel de l'entraînement. Et vous, c'est vraiment l'axe de travail que vous avez choisi, quoi. Vous êtes vraiment spécialisé là-dedans, la récupération, pour digérer les entraînements et pouvoir se projeter sur ceux d'après, hein.
Alors exactement. Alors donc moi, je suis le cofondateur de Jolt. Mmh. C'est une marque que nous avons créée il y a 5 ans. Avec mon associé Pierre Guérin. Donc, je vais vous présenter la marque en quelques mots. Nous développons des appareils de récupération donc musculaire, comme tu disais, pour accompagner et aider les sportifs à récupérer plus efficacement et plus rapidement. Donc, je vais peut-être parler un peu de la genèse du projet, mais l'histoire de Jolt, en fait, c'est celle de Pierre et moi, donc deux sportifs réguliers qui, avec l'âge, rencontreront davantage de pépins musculaires. Donc à ce moment-là, on est en 2018, on a un ami kiné qui nous suit, qui nous fait découvrir les pistolets de massage, qui à cette époque-là étaient encore très chers et réservés aux professionnels. Donc en tant qu'entrepreneur, si je puis dire, on s'intéresse aux innovations sur le marché du sport en général. Et entre notre passion pour le sport, nos pépins physiques et ce qu'on sait du marché, on décide de créer Jolt avec l'envie d'en faire une marque accessible et des produits dont chaque sportif, qu'il soit amateur, régulier ou même professionnel, pourrait s'équiper. Et donc avec l'obsession de l'accessibilité de nos produits, qu'elle soit financière ou même de par la facilité d'utilisation.
C'est ça l'intérêt en fait, Émile, c'est que souvent ces produits-là, on se dit, moi j'aimerais bien en acheter, mais c'est vrai que ce sont des prix assez élevés, dont on va parler des bottes de pressothérapie, on va parler d'autres appareils, mais à chaque fois peut-être que certains sont rebutés par le prix. Vous, c'est aussi votre ligne, c'est de se dire, on essaye de le rendre accessible. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez signé plusieurs partenariats avec différents clubs, pas seulement dans le running, hein. Je vois le Stade Français, je vois la Fédé de basket, c'est vraiment disponible et accessible à tous les sportifs, hein, tout type de sport d'ailleurs.
Ouais, voilà, exactement. Aujourd'hui, je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. Il y a une ampleur et une prise de conscience autour de la récupération, due à plusieurs facteurs. Donc, déjà, une première chose, c'est le progrès scientifique et les progrès scientifiques et médicaux, donc qui ont donné qui ont donné, je dirais, qui nous ont mis au fait de l'importance de la récupération. Ensuite, le sport, de manière générale, s'est professionnalisé. Donc on a vraiment une importance de la performance et ce qui a poussé les professionnels à récupérer mieux et plus rapidement et indirectement les sportifs amateurs comme nous. Ensuite, l'apparition de nouvelles méthodes de récupération. On parle de compression avec les bottes de compression, mais aussi de cryothérapie avec les bains froids. Et ensuite, aujourd'hui, on voit un développement et des outils de suivi, donc que ce soit des capteurs, des GPS ou des apps comme Strava, par exemple, qui permettent de mesurer la fatigue et d'adapter la charge de travail. Et tout ça, ça a accentué la notion de performance, donc indirectement de récupération dans son ensemble.
Je vois d'ailleurs, par exemple, pour ceux qui se posent la question, les pistolets Massan que vous proposez, l'entrée de gamme, c'est 159€. Donc, c'est des prix accessibles si on veut s'offrir un peu de matos de récupération. Et le pistolet, c'est déjà efficace sur des séances de course à pied. Hein.
Oui, voilà, exactement. On était il y a quelques semaines au Marathon de Paris et c'est des produits qui plaisent vraiment, accessibles aussi comme tu le disais par le prix. On propose aussi des solutions de paiement plusieurs fois. Aujourd'hui, 159€, c'est un super investissement si on veut commencer à récupérer plus efficacement.
C'est le prix d'une paire de chaussures. Ça donne un ordre d'idée. Le pistolet, il s'use pas avec les kilomètres. C'est ça, c'est ça la différence. Parlons de la gamme. J'ai parlé des pistolets, des bottes. Qu'est-ce que vous faites comme autre produit alors ?
Alors, je vais peut-être parler, j'ai introduit un peu le sujet, mais tout ce qui est ice bath, donc les bains froids.
Ouais.
Aujourd'hui, il y a une tendance qui nous vient des pays nordiques. Et on a décidé aussi d'intégrer la thermothérapie avec des saunas. Donc, ça permet d'effectuer des séances de récupération par contraste. Ça plaît énormément aujourd'hui. Ensuite, on a développé une gamme de crèmes, donc de gel thermoactif. Donc, on en est très fiers puisque c'est développé en Occitanie. Donc, nous, on est de Toulouse, originaire de Toulouse. Donc, gel renforçant, gel froid récupération et gel chauffant. On sait que les sportifs en sont friands. Et donc, après toute la pressothérapie et les pistolets de massage dont on a déjà parlé.
Ça, c'est très original, hein, les ice baths, là, les vrais baignoires que vous vendez. Donc, on installe que ça, on met des glaçons dedans et on peut faire un vrai bain froid à la maison. Quoi. Ça, c'est...
Ouais, c'est ça. Il n'y a pas forcément besoin de glaçons, d'ailleurs.
Hein, parce que, d'accord.
Souvent, on nous fait la remarque, mais c'est vrai qu'en France, peu importe plus ou moins où on habite, de septembre à mai, on a le soir, il fait suffisamment froid. Si on a
un
ice bath qui est sur le balcon, la terrasse... Pour la petite anecdote, j'en ai fait un juste avant l'émission, donc j'en ai sur le balcon, donc c'est super. Non, franchement, on se sent mieux. C'est hyper intéressant pour les sportifs, donc en récupération, c'est un côté anti-inflammatoire, mais aussi pour le bien-être, je dirais, général, c'est super intéressant.
Le produit phare, entre guillemets, ce sont donc ces bottes de pressothérapie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'intérêt direct pour un sportif de les utiliser ? Qu'est-ce que ça apporte comme ça à la récupération ?
Ouais, alors la pressothérapie, c'est une technique de massage par compression, donc qui stimule la circulation sanguine et lymphatique. Donc concrètement, ça reproduit le principe d'un drainage actif, comme si un kiné effectuait un massage remontant sur les jambes. Donc, pour les sportifs, nous, ce qu'on recommande, c'est après un entraînement, on a souvent les jambes qui sont congestionnées. Pourquoi ? Parce que les muscles ont accumulé des déchets métaboliques, comme l'acide lactique, ça, je pense que ça parle à tout le monde, et parfois des petites inflammations ou micro-lésions. Et donc, c'est là que les Bolt Jolt interviennent. Donc, grâce à des chambres d'air qui se gonflent de manière séquentielle, elles exercent une pression ciblée qui va permettre d'évacuer donc ces toxines, de réduire les douleurs musculaires, de limiter les courbatures et d'accélérer le retour veineux.
Donc c'est un beau cadeau. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le prix d'ailleurs des bottes de presso ?
Ouais. Alors nous on les commercialise à 699€. Donc comme je l'ai évoqué, on peut payer en plusieurs fois et c'est un super investissement puisque Déjà, ça va être utile pour les sportifs, ça va être aussi utile pour les gens qui ont des métiers physiques, qui ont les jambes lourdes en fin de journée.
Nous, ça peut servir à toute la famille, ouais, si on l'investit.
Voilà,
si on investit
mais voilà, exactement. Ouais. C'est là où je voulais en venir. Mm-hmm. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, sur du drainage lymphatique, qui est une pratique qui est à la mode en ce moment, on est sur des séances qui vont de 60 à 80 euros la séance, donc avec des bottes qui reproduisent le drainage lymphatique. Finalement, on va les rentabiliser assez rapidement.
Ouais, c'est sûr. On peut les trouver où, sur votre site direct, ou il y a des revendeurs aussi pour les acheter?
Alors, pour l'instant, on n'est pas présent en physique, ou très peu, je dirais, okay. chez des indépendants. Donc, je dirais plutôt sur notre site internet. On propose aussi des conditions de retour si jamais il devait y avoir un problème. Donc, okay. Mais il n'y en aura pas. Donc voilà, c'est getjolt.fr.
Voilà, getjolt. Jolt, je précise, donc l'orthographe c'est J-O-L-T et le site c'est getjolt, G-E-T-J-O-L-T.fr. Vous y allez, puis vous pouvez regarder un petit peu tous ces produits. Profitez-en, il reste quelques heures pour les French Days. D'ailleurs, il y a des promotions en ce moment. Donc
exactement.
N'hésitez pas.
Ouais.
Et comme ça, vous pouvez aller chercher un beau produit à moindre coût. Merci Emile d'être venu dans RMC Running. Et
Merci à toi, pour
la paire de bottes que vous faites gagner à la communauté RMC Running. C'est ça le beau cadeau de la semaine.
Ça fera un heureux.
Exactement. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous postulez sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, le compte RMC Running. On va tout vous indiquer sur les réseaux sociaux et comme ça, vous pourrez tenter votre chance, participer au tirage au sort pour gagner ces bottes de pressothérapie de la marque Jolt. Merci Emile, à bientôt dans RMC Running.
Merci de m'avoir accueilli, à bientôt, bonne journée, au revoir.
Allez, on passe au bon plan d'Ossa.
RMC, le bon plan d'Ossard.
Et un bon plan d'Ossard à faire gagner aujourd'hui, ça concerne le Swimrun Côte Sudland avec une magnifique épreuve, plein de formats proposés. C'est le 24 mai, course qui traverse les communes de Sortes, Osgore, Seignos et Cap-Breton. Vraiment, allez-y, hein, c'est un format dont on a souvent parlé dans RMC Running. Vous savez, c'est format natation et course à pied. Vous enchaînez comme ça les deux disciplines. Il y a 6 sections sur le 20 km. C'est pour ça qu'on vous met cette course en avant. Ça se fait à deux d'ailleurs. C'est toujours une course à faire en binôme. Sur le 20 km, vous avez 3,7 km de natation et 6 sections de course à pied pour un total de 16 km. N'hésitez pas. Le temps sera radieux. En plus, a priori, fin mai, donc sur la plage du parc à Osgore, vous allez vous régaler. Si ça vous intéresse, là aussi, postulez. On vous propose deux formats. Donc deux équipes de deux. Une équipe pour le 20 km et une autre pour le 5 km. Alors pour le 5 km, c'est 1,5 km de natation et 3,5 km de course à pied. Ça permet aux débutants, ceux qui veulent se lancer, de tester la discipline. N'hésitez pas là aussi, si vous êtes intéressé, faites-le nous savoir sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Strava notamment, postulez pour ces magnifiques dossards. Je le répète, donc le 24 mai, cette magnifique course, le Swimrun Côte Sudland. Bon, merci Laure d'être venue dans RMC Running.
Merci,
bonne
Yann.
Pratique sportive. La bise à tes 3 enfants, voilà, ouais. qu'on embrasse également. Merci Maître Yodu pour cette participation, pour ces conseils aussi donnés. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.
RMC Running.